Et à compter du 4 décembre, donc vendredi, l'illusionniste Luc Langevin présente son spectacle numérique interconnecté au pluriel. Et on a la chance d'avoir un peu plus d'informations sur l'événement parce que Luc Langevin est au bout du fil. Bonjour Luc.
Bonjour Hélène.
Ça me fait plaisir de vous parler en cette journée de décembre. Est-ce que votre spectacle a vu le jour en raison de la pandémie dans l'esprit de se réinventer ou bien le projet faisait partie de la liste de vos envies depuis longtemps?
J'avais une envie depuis longtemps, je dirais depuis un an et demi, de faire un spectacle plus intime avec un nombre de personnes plus restreint avec qui je pouvais avoir une interaction plus personnelle. Mais le projet dormait, si je peux dire, parce que j'arrivais pas à trouver comment il pouvait être viable ou au niveau des coûts de production. Puis quand la pandémie est arrivée, soudainement, ben j'ai ressorti ce projet-là parce que j'ai vu quelques initiatives d'artistes là, de faire des spectacles en ligne, des spectacles virtuels. Puis là, je me suis dit, ah tiens, d'utiliser ce concept-là pour un spectacle virtuel, ça peut régler les problèmes qu'on a de coûts de production parce qu'on n'a plus besoin d'avoir de camions de tournée, de louer des théâtres. Bref, il y a un paquet de contraintes comme ça qui disparaissent pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mm. Et donc, c'est là que le projet s'est concrétisé. Donc, c'est en réponse à la pandémie, mais le concept de base germait depuis longtemps dans mon esprit.
D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez à travers Interconnecté? À qui le spectacle s'adresse?
C'est pour toute la famille. J'ai conçu le spectacle pour qu'un enfant de 6-7 ans puisse l'apprécier et jusqu'à un adulte, une personne, un aîné de 90 ans, disons. C'est un peu la beauté de la magie. Là,
ben, ceux qui ont 92 qui nous écoutent, là, vous les invitez pas.
Oui, sont les bienvenus aussi.
Disons jusqu'à 110, évidemment. On prend pas de chance.
Prenons pas de chance, jusqu'à 150 si vous voulez.
Okay.
Je pense que plus on vieillit, plus on a besoin d'émerveillement. Donc.
Oui, hein? Probablement.
Oui, donc c'est vraiment pour tous. Puis c'est pour ça aussi que le concept se prêtait bien, parce que comme j'entre dans le foyer des gens, dans le salon des gens, finalement, via la plateforme numérique, ben on peut l'écouter en famille, justement. Donc même le plus jeune et le plus vieux vont pouvoir l'apprécier. Puis il n'y a pas tant d'offres de spectacles comme ça qui peut réunir toute la famille autour d'un seul et même divertissement. Donc moi, en fait, ce que je propose avec ce spectacle-là, c'est une nouvelle forme de magie, littéralement. Donc, mon but, c'est toujours d'émerveiller, de bluffer, de tromper les sens des gens, mais toujours amicalement, évidemment, pour leur faire vivre la magie. Puis, le fait qu'on soit numérique, évidemment, c'était une contrainte pour moi, parce que je me disais, devant un écran, les gens vont se dire que tout est possible. On peut faire des effets spéciaux par ordinateur et tout. Donc, je me suis dit, comment je peux régler ça? Donc, j'ai créé des tours, finalement, qui mettaient à profit cette plateforme-là, c'est-à-dire que la magie va se produire dans la boîte courriel des gens, entre leurs mains, même s'ils sont chez eux. Il y a certains tours, même, ça se produit chez les gens, littéralement. Donc, ça m'a forcé vraiment à créer des tours où la magie s'invite chez les gens, finalement, puis que les gens, finalement, vont vivre les mêmes émotions que s'ils me voyaient en live.
Oui, ben, le spectacle est en direct.
Oui, tout à fait. Chaque représentation est en direct. Les gens sont connectés en direct avec moi.
Ouais. Et le spectacle, donc, a un sous-titre, « Aux portes de l'impossible ». Pourquoi?
Oui, parce que comme quand j'ai créé le spectacle, justement, je me disais comment je vais faire pour impressionner les gens, vu qu'ils vont me regarder faire de la magie sur un écran. Donc, un peu ce que j'expliquais précédemment.
Oui,
la technique que j'ai utilisée, je me suis dit, je vais fermer les portes sur leurs explications rationnelles. C'est-à-dire que par exemple, je me suis dit, les gens vont peut-être dire qu'il y a du montage, que dans les coupures de caméra, je fais des choses qu'ils ne voient pas. Donc, j'ai opté pour faire un plan séquence. Tout le spectacle est un long plan séquence d'une heure qui ne coupe jamais. Par exemple, aussi, j'ai fait construire des tables sur mesure qui sont très, très hautes pour poser mes accessoires pendant le spectacle, ce qui fait qu'on voit toujours en dessous de ma table, pendant les numéros. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas personne de caché en dessous.
Il y a des trucs, mais vous ne trichez pas.
Ben, je triche de façon honnête, disons. mais pour revenir aux portes, donc c'est ça l'idée, c'est de fermer. Je me suis dit, je vais fermer toutes les portes sur les explications rationnelles des gens pour que tout ce qui reste, ce soit l'émerveillement. C'est ce que je dis dans la bande-annonce du spectacle. Donc, et d'où le sous-titre « Aux portes de l'impossible ».
Mais quel lien vous allez pouvoir entretenir avec vos spectateurs parce qu'ils ne pourront pas aller sur une scène, là. Vous allez pouvoir interagir avec eux, mais de quelle façon?
Bien, à chaque représentation, il y a 23 spectateurs qu'on dit premium. Donc, eux, ils apparaissent à l'écran tout au long du spectacle. Ils sont en interaction directe avec moi. Je leur parle, je les nomme par leur prénom. C'est eux qui déterminent l'issue de chaque numéro. C'est-à-dire que c'est eux qui vont nommer un animal, un fruit, une carte à jouer que moi, je fais apparaître, disparaître, que je téléporte. Donc, il y a vraiment une interaction peut-être encore plus directe avec les gens que ce que les gens pouvaient voir dans mes émissions de télé standard, par exemple. Puis même dans mes spectacles sur scène, évidemment, il y avait des gens qui montaient sur scène et qui vivaient la magie vraiment de l'intérieur, mais c'était une minorité, c'était peut-être une douzaine de personnes par spectacle qui avaient la chance de monter sur scène. Là, avec ça, ben, ces 23 spectateurs-là sont vraiment au cœur de la magie tout au long du spectacle. Et il y a aussi les spectateurs qu'on dit réguliers, donc où le prix du billet est moindre, et ces spectateurs-là vont pas apparaître à l'écran, mais ils assistent au spectacle en direct et ils sont quand même impliqués dans les tours. C'est-à-dire, il y a un numéro, par exemple, où j'envoie un courriel à tout le monde en leur demandant de ne pas l'ouvrir tout de suite. Donc, les spectateurs réguliers le reçoivent aussi et ils vont vivre la magie en ouvrant le courriel pendant le spectacle. Je demande à tout le monde d'avoir un jeu de cartes aussi en main et il y a le numéro final. Tous les spectateurs, qu'ils soient premium ou réguliers, sont invités à prendre le jeu de cartes, à suivre mes indications, et la magie va se produire dans leurs mains, là aussi. Donc, les gens, finalement, que peu importe le billet qu'ils achètent, vivent la magie en étant connectés en direct avec moi.
Oui, d'autant, ben ça prend évidemment une bonne connexion Internet.
Oui, c'est certain que si on a un enfant qui joue à un jeu vidéo dans la pièce d'à côté sur la même connexion, ça ne nous aide pas. Là.
La magie opérera pas.
Oui, elle va opérer sa cadence.
Et Luc Langevin, je vous ai présenté comme illusionniste. Vous vous présentez comme un créateur d'illusions. Est-ce que vous avez de la difficulté avec le mot magie? Est-ce que vous faites une différence entre l'illusionniste et le magicien?
Oui, un peu. Quand j'ai commencé ma carrière télévisuelle il y a une douzaine d'années, moi, j'essayais d'utiliser le moins possible le mot magie parce que je voulais me distinguer des magiciens, disons, plus ringards, à laquelle l'image du magicien en tuxedo avec un chapeau de forme qui scie une femme en deux, les magiciens à qui cette image-là colle, moi, je voulais m'afficher comme un magicien plus moderne, si on veut, donc qui était novateur. Et c'est pourquoi je voulais... J'essayais d'utiliser un autre terme pour pas être associé à tout le côté ringard. Donc, j'utilisais beaucoup le terme illusionniste, créateur d'illusions. Aujourd'hui, depuis les dernières années, comme j'ai ma notoriété, si je peux dire, est un peu plus établie, je suis un peu réconcilié avec le terme magie et magicien. Mais c'est sûr que le terme illusionniste est toujours plus approprié, je trouve, parce que je ne fais que de l'illusion, donc je n'ai pas de vrai pouvoir, je m'en cache pas, j'ai pas de pouvoir surnaturel. Donc le terme illusionnisme, je me paraît plus rigoureux.
Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez décidé de gagner votre vie en étant illusionniste? Il y a quelqu'un qui fait un truc en arrière de vous?
Oui, c'est mon fils de 3 ans.
Oh, on le salue.
D'accord.
Il s'appelle comment?
Il s'appelle Victor.
Victor.
Oui.
Victor peut être un futur illusionniste, qui sait. Alors, Luc, est-ce que c'est un magicien ou un illusionniste qui vous a donné l'espèce de pulsion où vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire?
Oui, tout à fait. En fait, la première fois que j'ai vu de la magie, c'était, j'avais 6 ans. Je savais même pas que ça existait à l'époque, mais j'ai vu un spectacle de magie à ce moment-là et ça m'a fasciné. J'ai été captif tout le long de la prestation. Puis immédiatement, mes parents m'ont encouragé là-dedans. Ils ont vu l'intérêt que j'avais, même en étant très, très jeune. Donc, ils m'ont acheté tous les kits de magie, tous les livres qu'ils pouvaient trouver sur le sujet. Mais c'est à l'âge de 12 ans. Que j'ai décidé que je ferais ça de ma vie. À l'époque, mes parents, quand je leur disais « prenez ça avec un grain de sel », ils ne prenaient pas vraiment au sérieux, mais je me rappelle très bien.
Ils vous encourageaient, mais ils ne vous prenaient pas au sérieux.
Oui, ils m'encourageaient, mais ils pensaient... un adolescent de 12 ans qui dit « je vais être magicien plus tard », bon, on le prend avec le sérieux qui va avec.
Ça va lui passer...
Ouais. Mais je me rappelle qu'au fond de moi, c'était vraiment une décision réfléchie et sérieuse. Puis je continuais à avoir le même discours à 13, 14, 15, 16 ans.
Okay.
À 16 ans, là, mon père commençait à se choquer un peu quand j'en parlais. Puis on a eu des discussions où on a levé le ton un peu. Puis,
mais pourquoi il y avait ce genre de discussion-là? Il y avait peur pour vous, pour votre avenir financier ou?
Évidemment, ouais. Oui. Puis je peux le comprendre maintenant que j'ai un enfant. Je peux très bien comprendre qu'on veut le bonheur de nos enfants. On veut pas qu'ils en arrachent dans la vie. Donc, puis une carrière de magicien, je peux vous dire que c'est pas si on veut bien vivre, si on veut bien gagner sa vie au départ, c'est pas la chose la plus, c'est pas le choix le plus intelligent, je dirais. Là, c'est comme n'importe quel domaine artistique. Au début, c'est toujours plus difficile là, avant de connaître le succès.
Oui, il faut y croire, il faut travailler.
Exactement.
Il faut être chanceux.
Voilà, faut beaucoup de choses. Heureusement, les astres se sont alignés pour moi après vers l'âge de 24 ans, là, où j'ai été découvert par un producteur télé. Puis ben maintenant, mes parents sont très fiers de mon parcours. Là, donc,
ben, c'est drôle que vous dites que à 6 ans, vous vouliez faire ce métier. À 12 ans, ça devenait de plus en plus fort. Mais vous avez quand même fait des études en physique, en sciences physiques. Vous avez même une maîtrise en optique et un début de doctorat en biophotonique.
C'est exact, oui.
C'est quoi ça, la biophotonique?
La biophotonique, c'est l'étude de la vie, biologiquement parlant, grâce à la lumière. Donc, d'où le mot photonique, photon, c'est une particule de lumière. Donc, je travaillais sur de la recherche plus spécifique à l'utilisation de la lumière, des lasers pour créer, par exemple, des microscopes ou des endoscopes pour étudier les cellules vivantes dans le corps humain ou ailleurs.
Là, on est loin de la magie ici, là.
Ben oui et non. En fait, il y a beaucoup de sciences dans la magie. Je m'en étais rendu compte même à l'adolescence que plusieurs tours de magie fonctionnent souvent grâce à des principes scientifiques méconnus. Donc, ma formation comme ingénieur physicien pour en arriver à faire ce doctorat-là m'a énormément nourri ma démarche dans le monde de l'illusion, je dois dire. Puis, mais c'est sûr que le doctorat, on travaille souvent sur un sujet qui est très, très pointu. Donc là, oui, j'étais plus loin de la magie, mais même là, ça a inspiré certaines illusions que j'ai faites, notamment une où je faisais entrer un pointeur laser dans mon torse et où mes veines s'illuminaient pour révéler une carte choisie. Donc, et ça, c'était directement inspiré de mes travaux de doctorat, là, sans que les recherches doctorales aient servi à créer l'illusion, mais ça l'a inspiré malgré tout. Là. Donc, il y a toujours des liens qui se sont faits.
Oui. Et vous avez publié le livre « La science de l'illusion » où vous donnez quelques-uns de vos trucs. Donc, la compétition n'a pas l'air de vous faire peur.
Non, pas vraiment. En fait, j'aime parfois lever le voile sur certains de mes secrets parce que je trouve que ça donne un peu ces lettres de noblesse à la magie. Ça montre toute la rigueur qu'il y a derrière. Ça montre que c'est un art, en fait, que pour réussir à faire les numéros, lorsqu'on voit les ficelles qu'il y a derrière, on se rend compte à quel point ça demande de la pratique, de la discipline, de la rigueur. Donc à l'occasion comme ça, ça me fait pas peur d'en révéler un peu. J'en révèle pas trop, pas assez pour me tirer dans le pied puis que ça m'empêche de faire certains tours que j'aime beaucoup faire, mais assez pour que les gens s'y intéressent un peu plus, disons.
Votre spectacle interconnecté aux portes de l'impossible va être présenté, comme je le disais tantôt, à partir du 4 décembre jusqu'à la toute fin de janvier. Vous allez présenter des spectacles au Québec, pour le Québec et pour l'Europe francophone.
Tout à fait, oui. En fait, je fais deux spectacles par jour, un à 14h30, heure du Québec, mais qui est spécifique à l'Europe, parce que pour eux, à ce moment-là, il est 20h30 en France. Donc, on vend les billets de ces spectacles-là en euros pour les Européens. Et la journée même, le soir à 20h, heure du Québec, je fais un spectacle pour le Canada, disons, pour ceux qui sont dans notre fuseau horaire. C'est la beauté de la chose avec ce spectacle. Ça me permet d'offrir de la magie à des spectateurs partout sur la planète en même temps.
Et est-ce que vous présentez ce spectacle à partir de chez vous ou d'un autre endroit, d'un autre local?
C'est en direct de mon atelier d'illusion. Donc,
vous avez un atelier d'illusion?
Oui, c'est à la fois un entrepôt et un atelier. Donc, c'est l'endroit où j'entrepose toutes mes illusions et où je conçois les nouvelles illusions que je fais. Et c'est un lieu qui était alors fermé au public jusqu'à maintenant que j'avais jamais montré à l'écran ou ailleurs. Et là,
on va pouvoir le découvrir.
Voilà, exactement.
Il est situé où? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous gardez le lieu, l'adresse secrète, sans me donner l'adresse complète?
Oui, non, sans vous donner l'adresse et le numéro du local, disons, c'est à 5-10 minutes de chez moi, donc j'y vais à pied, donc c'est à Montréal. C'est une ancienne usine qui a été transformée pour faire plusieurs locaux commerciaux. Puis moi, c'est un local que je louais là depuis des années, justement, pour entreposer et travailler. Et maintenant, ben, c'est devenu mon théâtre virtuel également.
Bon, bien, on va pouvoir le découvrir tout en découvrant votre spectacle, Luc Langevin. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et je rappelle que si les gens ont envie d'avoir des billets, ils sont disponibles sur le site luclangevin.com. 55 $ pour les billets premium, taxes non incluses, et 25 $ plus taxes pour les billets réguliers. Et on va surveiller aussi les nouvelles dates là, pour votre autre spectacle intitulé « Maintenant, demain », les dates qui ont été reportées, évidemment, à cause de la pandémie. Merci, voilà. Luc Langevin.
Merci, Hélène. Au plaisir.
Oui, au plaisir. Vous saluerez Victor. Vous lui souhaiterez un beau Noël.
Certainement.
À vous aussi. Et votre famille. Au plaisir.
Au revoir.